Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Des spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Le monde entier connaît des problèmes liés au changement climatique et la dégradation des forêts est l'un des facteurs qui contribuent à ces fléaux. Pour sauver la planète, plusieurs pays du monde, dont la RDC, avaient pris un engagement international de la restauration des terres dégradées et déboisées d'ici 2030. C'est dans ce cadre que l'UICN, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont organisé un atelier de validation de la carte des opportunités de restauration des terres dégradés des voisins RDC. Quelles sont leurs recommandations et comment se fera cette restauration de toutes ces zones? Je le disais, nous en parlons avec notre invité Elie Akizou-Mouami, qui est chargé des programmes pour l'Afrique centrale à l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, monsieur Elie, on va parler de ces problèmes liés au changement climatique, et nous l'avons dit, l'un des facteurs qui contribue à ces fléaux, c'est la dégradation des forêts. Et là, on va parler de comment réhabiliter toutes ces terres déboisées, toutes ces terres qui sont dégradées. Et pour cela, il fallait une cartographie pour savoir quelles sont toutes ces terres. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur ce travail de cartographie, parce qu'il y avait un atelier qui a eu lieu par rapport à comment réhabiliter les terres dégradées et déboisées?
Oui, merci pour votre question. Comme vous l'avez présenté, je m'appelle Elie Akizou-Mouami et je suis chargé de programme forêt pour Afrique centrale. C'est un programme de l'UICN. La RDC, dernièrement, il s'est engagé à restaurer 8 millions d'hectares au niveau national pour contribuer au défi connu sous le nom de défi de Bonne pour la restauration de 150 millions d'hectares à travers le monde d'ici 2020. Donc, pour s'engager, il faut qu'il y ait d'abord un problème. Le problème de déforestation, dégradation des terres en RDC, c'est un problème réel. Mais pour avoir beaucoup plus d'informations, il faut faire une évaluation.
Une évaluation, tout à fait.
Donc, la carte qui a été produite fait partie des étapes de l'évaluation. Et le résultat a montré qu'au niveau national, entre 1990 oui. ou 1990 et 2010, il y a eu une perte de 11 millions d'hectares au niveau national. Ce sont des résultats qu'ont révélé l'analyse qui a été faite à travers la production de cette carte. Vous voyez que cette...
Quand vous dites 11 millions d'hectares de pertes, c'est-à-dire des forêts qui sont dégradées, qui sont déboisées, quand on dit des pertes, ça, c'est-à-dire...
Les 11 millions d'hectares, ce sont des 11 millions d'hectares dégradés ou déboisés.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est
énorme tout de même. Hein?
Oui, c'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
Oui.
Je voudrais donner la précision que cette superficie ne concerne pas seulement la zone forestière,
oui.
mais ça concerne également la zone de savane et les forêts de Miyombo, vers le Katanga. Donc, cette carte a eu une couverture nationale. Donc, vous voyez que l'engagement de la RDC de 8 millions d'hectares au niveau national est en dessous de la situation actuelle.
Actuelle, oui.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Je me souviens quand, après l'engagement de la RDC, beaucoup de personnes avaient des doutes sur cette superficie parce qu'ils pensaient que c'est peut-être l'exagération. Mais cette analyse a montré que non, ce n'est pas l'exagération, mais le problème est plus sérieux que l'on croyait.
Alors, s'il faut maintenant réhabiliter ces zones dégradées, ces forêts dégradées, déboisées, et donc il faut commencer par attaquer les causes. Quelles sont les causes qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Oui, les principales causes de cette dégradation, il y a par exemple l'exploitation pour l'approvisionnement du bois, énergie. Ça, c'est une grande cause. Si on voit ce qui se passe autour de Kinshasa, autour de Kisangani, autour dans la zone de Bujibaï, et surtout généralement autour des zones urbaines, il y a un grand problème de manque d'énergie. Donc les gens s'approvisionnent en bois pour avoir l'énergie. Si vous prenez par exemple la route Kinshasa-Bakongo, c'est avec les Peugeot 504 remplis de charbon, avec des camions remplis de bois et de charbon.
À longueur de journée.
Donc ça, à longueur de journée, ça, ce sont des indicateurs directs qui montrent que l'approvisionnement du bois fait partie des causes. Une autre cause, c'est aussi la recherche de la terre pour l'agriculture. Et aussi, il y a la croissance de la population et les gens doivent manger. Donc, ils doivent trouver de nouvelles terres pour la production. Malheureusement, avec cette extension, si on n'applique pas les méthodes agricoles qui permettent une haute production, on est toujours à la recherche de la terre. Donc c'est toujours, c'est pourquoi il faut faire il faut adopter les pratiques qui augmentent la productivité de la terre afin d'avoir plus de production sur une superficie donnée.
Alors là, vous avez cité les grandes causes qui sont à la base de cette dégradation de ces forêts. Et maintenant, il faut le réhabiliter. Vous avez parlé de 8 millions après les études menées, hein, alors que c'est 11 millions d'hectares qui sont perdus à travers tout le pays. Mais il faut réhabiliter, ça c'est d'ici à 2030, c'est ça, réhabiliter 8 millions d'hectares de forêts en RDC.
Oui, oui, il faut les réhabiliter. Mais avant de vous parler de la réhabilitation, les causes, il y en a d'autres que peut-être je voudrais citer.
Oui, allez-y alors.
Donc, il y a l'exploitation illégale du bois.
Oui.
Et l'exploitation artisanale du bois non contrôlée. Et tout ça, ça contribue à la déforestation. Et il y a également l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc, chaque fois, on ouvre la nouvelle forêt pour l'agriculture. Donc, il faut penser à la sédentarisation. Donc, les causes sont nombreuses, sans oublier aussi l'exploitation minière, artisanale et industrielle. Il y a aussi les infrastructures, surtout liées à l'extension urbaine. Quand on veut de nouvelles terres, il y a des carrières autour des zones urbaines, il y a aussi l'ouverture des routes. Donc, tout ça, ce sont des activités, quelquefois, qu'on ne peut pas arrêter, mais il faut trouver une solution, il faut trouver une conciliation entre le développement et la conservation.
Alors, ça sert à quoi la solution? Parce que c'est important. Autrement, ces terres vont continuer à se dégrader davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des pistes de solutions par rapport, par exemple, à les recommandations qui ont été faites pour ce travail de réhabilitation?
Bon, la solution, c'est de trouver... c'est développer les initiatives et trouver les moyens pour restaurer les parties dégradées. Le problème, ce n'est pas, c'est pas qu'on exploite, mais après l'exploitation, il faut penser à la restauration.
Oui.
Donc, ce qui ne se fait pas jusqu'à présent. Donc, c'est pourquoi, avec cette initiative et avec l'engagement de la RDC, c'est pour pouvoir promouvoir des initiatives de réhabilitation des zones qui ont été dégradées ou déboisées.
Alors, prenons le cas des communautés qui vivent, comme vous avez dit, de l'exploitation de la forêt, du bois de chauffe, à leur niveau. Qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer par faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution?
Bon, les solutions sont nombreuses,
oui.
Parce que le grand problème avec cette dégradation, il y a la perte de la fonctionnalité des écosystèmes. Il y a la perte des services écosystémiques, notamment si, par exemple, dans une zone, il y a une source d'eau, si la zone est dégradée, il y a le problème de tarissement des rivières. Donc, il faut rétablir. Donc, parmi les méthodes pour la réhabilitation des zones, surtout comme vous avez parlé au niveau des populations, il y a l'agroforesterie. C'est-à-dire que dans des zones agricoles, la production agricole doit continuer. Mais ça doit continuer avec l'arbre à côté. C'est pourquoi il faut adopter les pratiques d'agroforesterie. Donc l'introduction des arbres dans les champs agricoles. Et une autre technique, c'est aussi pour les endroits qui ont été dégradés. Ça peut être la dégradation à grande échelle.
Oui.
Qui n'est pas nécessairement concerné par l'agriculture, il faut penser au reboisement.
Et vous avez également cité parmi les causes l'exploitation illégale avec tous ces grands exploitants. Et par rapport à tous ces grands exploitants, ça sert à quoi la solution, toujours dans le cadre de réhabiliter ces zones dégradées, ces forêts déboisées?
Oui, pour l'exploitation du bois, il faut développer les actions de développement des capacités pour les nouvelles techniques, donc les techniques d'exploitation durable. Parce que ça existe.
Oui.
Le problème, c'est qu'il manque d'encadrement de ces exploitants artisanaux. Donc, il faut les encadrer. Et là où ça a été dégradé, il faut penser, par exemple, aux plantations d'enrichissement. Surtout quand les forêts existent, les poches qui ont été dégradées, on peut faire des plantations pour enrichir ces zones.
Voilà, on va poursuivre avec vous, Monsieur Eli Akizumwami. Vous êtes chargé des programmes pour l'Afrique centrale à l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN en sigle. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Il y a Maître Guilin qui nous appelle de Kinshasa. Il y a Chombangoy qui est à Kindu. Si vous êtes également intéressé par rapport à ces sujets sur comment réhabiliter les terres dégradées déboisées, appelez-nous au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Maître Guilin nous appelle de Kinshasa. Bonjour Maître Guilin.
Ah, bonjour Radio Capi.
On vous écoute, Maître Guilin.
Oui, j'ai suivi, n'est-ce pas, le thème que vous avez aligné, compte tenu de son importance. J'étais obligé vraiment d'intervenir. Je salue aussi votre invité. Mais néanmoins, en ce qui me concerne, j'estime que le problème est au niveau d'abord de la politique de la protection par l'État de nos forêts. À l'opposé, quand vous prenez, parce que la forêt équatoriale s'étend du côté Gabon, Cameroun, quand vous examinez leur politique, vous allez trouver qu'ils sont plus ou moins sérieux par rapport à la protection de leur forêt. Parce que quand nous parlons de cause de la dégradation de la forêt, entre autres, nous avons l'exploitation illégale. L'exploitation illégale suppose, n'est-ce pas, qu'il y a des infractions, n'est-ce pas, forestières. En tant que tel, je me pose la question, combien avons-nous comme OPJ chargés de constater ces infractions-là? Combien d'inspecteurs par mètre carré par rapport à nos forêts que nous avons? Parce que ça ne sert à rien de chercher seulement à réhabiliter au moment où la dégradation est facile. Vous allez constater avec moi que le ministère de l'Environnement, c'est le ministère qui reçoit beaucoup de fonds, n'est-ce pas, pour réhabiliter, n'est-ce pas, notre forêt. Pour et pourtant, on pouvait d'abord en amont prendre certaines mesures de protection pour notre forêt. Voilà là où s'appelle la politique gouvernementale. Quelle est la politique qui concerne la RDC pour la protection de notre forêt? Il n'y en a pas. Si nous prenons du point de vue statistique, nous prenons le nombre d'OPJ forestiers. Je crois en République démocratique du Congo, si ma mémoire elle est bonne, pour toute la République, nous n'avons que 32 OPJ. Que dire maintenant des inspecteurs? Voilà pourquoi moi j'estime qu'avant de penser à la réhabilitation, nous devons aussi mettre l'accent, n'est-ce pas, sur la prévention. Parce que nous devons d'abord prévenir avant de réhabiliter ce qui a été détruit. Quand nous parlons par exemple en termes de 8 millions d'hectares qui doivent être réhabilités, est-ce que on se représente un peu ce fond-là. Si on l'avait gardé, on pouvait peut-être orienter autrement tout ce fond-là. Voilà un peu à ce stade du débat ma petite contribution par rapport au thème que vous avez, que vous êtes en train de développer.
Merci, Maître Guilin. Merci d'avoir appelé des Kinshasa à Kindu. Nous avons en ligne Tchomba Ngoya. Bonjour, Tchomba.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, c'est l'invité.
On vous écoute.
Bonjour. J'ai une petite question que je voulais poser à l'invité. Dans les pays où ils n'ont plus de forêts ni de savanes, quels moyens qu'ils utilisent pour lutter contre les changements climatiques? Parce que moi, je vois ici en RDC, vous parlez seulement de la déforestation. Alors, dans ces pays où ils n'ont plus de forêts ni de savanes, quels moyens qu'ils utilisent pour lutter contre les changements climatiques?
Voilà, merci à Tchoubangoy d'avoir appelé de Kindu. Je reviens à notre invité, Eli Akizou Mwami. Alors, si vous voulez bien répondre d'abord à la question de Tchoumba qui a appelé de Kindu, qui dit ici on parle de déforestation, et pour les pays où il n'y a pas assez de savane, assez de forêts, c'est comment ils font face au changement climatique?
Oui, merci pour cette bonne question. Je pense que pour la lutte contre le changement climatique, il y a beaucoup d'approches. Mais aussi, il faut savoir que les causes de changement climatique, ce n'est pas seulement la déforestation. Il y a d'autres causes qui sont liées à l'industrialisation, il y a d'autres causes qui sont liées au secteur de transport. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui contribue au changement climatique. Mais à ce qui concerne le thème qui nous concerne aujourd'hui, je prends l'exemple des pays sahéliens, le cas du Tchad, par exemple, le cas du Niger. Vous savez qu'ils ont un grand projet appelé la muraille verte. Donc, avec cette muraille verte, ils plantent les arbres pour aussi stopper l'avancée du désert, mais aussi ces arbres contribuent à la séquestration et au stockage de carbone. Donc, ce n'est pas seulement dans la zone forestière où les questions de changement climatique sont concernées, mais aussi dans des pays sahéliens. Ils ont aussi des solutions adaptées à leur milieu.
Voilà, vous avez suivi également Maître Guilin qui a appelé de Kinshasa. Pour lui, aujourd'hui, on déplore qu'il y ait 8 millions d'hectares à réhabiliter, ce qui va nécessiter des fonds, alors que d'après lui, on pouvait également faire de la prévention par rapport à cela, c'est-à-dire que voir à quel niveau il faut sanctionner, prendre des mesures en amont de façon que les forêts soient protégées. C'est-à-dire qu'il faut toute une politique de protection, de conservation de la forêt.
Oui, merci pour sa question, qui est une question très pertinente, mais là où qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a la loi et la politique existent.
Oui.
Ça existe, mais le problème peut-être se trouve au niveau de l'application effective de la loi et de la mise en œuvre de cette politique. Donc, au niveau de la plupart des pays, ce n'est pas seulement en RDC, selon mon expérience dans la sous-région, le problème de l'application de la loi, c'est un problème général. Mais les pays se sont engagés à résoudre ce problème. C'est à travers, par exemple, ces engagements qu'ils vont essayer de mobiliser les ressources pour aussi résoudre ce problème. Donc, je pense que le travail qui est en train d'être fait, on ne peut pas avancer s'il n'y a pas une mobilisation. Et la mobilisation doit d'abord venir au niveau de la politique du pays. Le fait que, par exemple, le pays s'est engagé pour la restauration de 8 millions d'hectares, c'est déjà une politique. Maintenant, comment mettre en œuvre cette politique? C'est là où il faut unir des efforts, pas seulement le pays, mais aussi des partenaires. C'est pourquoi, avec ce cadre, on mobilise les partenaires pour aussi accompagner le pays dans la mise en œuvre de leur politique et aussi dans l'application effective de la loi.
Voilà, nous avons une auditrice en ligne, Madame Pacifique, qui nous appelle de Kinshasa. Mais avant d'accorder la parole à Madame Pacifique, puisqu'on parle de la forêt qui fait conserver, vous êtes chargée des programmes pour l'Afrique centrale à l'Union internationale pour la conservation de la nature de l'UICN. C'est quoi le travail de l'UICN?
Bon, le travail de l'UICN est d'abord influé sur les États, et d'autres parties prenantes pour qu'ils puissent contribuer à la conservation de la nature et au développement durable des populations. Donc, ça a un lien direct avec la conservation de la biodiversité et avec la lutte contre le changement climatique et aussi avec la protection des espèces. Parce que vous savez qu'à travers le monde, il y a certaines espèces qui sont en disparition. Et l'UICN, c'est une organisation internationale qui développe un outil de suivi et de protection des espèces menacées.
Voilà, on peut accorder la parole cette fois à Madame Pacifique, qui nous appelle de Kinshasa. Madame Pacifique, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour, la
cité. On vous écoute, madame.
Ouais, moi, j'ai voulu demander à la cité, est-ce vraiment sur le plan national, il y a un programme déjà établi, parce que les gens qui vivent non loin d'ici, dans des villages qui nous entourent, utilisent pas les arbres. Donc tout ce que vous ferez comme travail, sera ça, s'il n'y a pas sensibilisation. Est-ce qu'il y a un plan d'action qui est déjà, je ne sais pas, mené déjà pour sensibiliser les paysans, leur de montrer le fait de dégradation, de tout ce qu'ils peuvent faire comme travail avec le bois et comment la terre sera dégradée et tout. Est-ce qu'il y a vraiment un programme déjà établi? Si oui, ça commence quand ou ça a déjà commencé depuis quand?
Voilà, merci Madame Pacifique d'avoir appelé de Kinshasa. Vous avez suivi, elle est en train d'insister sur la sensibilisation même de la population par rapport à l'exploitation du bois dans les forêts. Et vous avez même évoqué qu'il faut, c'est important que la population sache qu'il faut, il faut planter. Alors, qu'est-ce qui est fait comme travail par rapport à la sensibilisation?
Oui, merci Madame pour votre question. Bon, disons, à ma connaissance, il y a certaines initiatives ici en RDC qui travaillent sur ce sujet. Et il y a la société civile, donc les ONG et les organisations non gouvernementales qui travaillent au niveau local avec les populations. Et il y a aussi certains projets sur le terrain qui aussi travaillent avec les populations au niveau de la sensibilisation. Et je suis d'accord avec vous que il y a encore des efforts à faire pour que la majorité de la population soit touchée. Donc c'est là où il y a un problème et c'est pourquoi on lance cette campagne. Donc c'est pourquoi il y a eu cet engagement. Donc cet engagement permettra d'élargir les initiatives pour toucher la majorité de la population afin de les sensibiliser si la nécessité de protéger l'environnement, mais aussi la nécessité de planter les arbres pour aussi le développement, pour leur développement, que ce soit le développement économique et aussi pour la sécurité alimentaire. Je peux parler, par exemple, des arbres qu'on peut planter à travers l'agroforesterie pour la production des fruits. Donc ça améliore la sécurité alimentaire. Donc je pense qu'il y a un grand travail à faire. Et avec cette mobilisation, avec cette niveau politique de la RDC, de restaurer et les 8 millions d'hectares, ça va contribuer à ces améliorations que je viens de mentionner. Mais pour y arriver, il faut augmenter les moyens, il faut la sensibilisation. Et je pense que c'est ce que vise cette mobilisation.
Voilà, comment réhabiliter les terres dégradées du boisé si vous venez de vous joindre sur la fréquence de la paix, sur le magazine Okapi Service. On est donc en train de parler de ce sujet avec notre invité Elie Akizou-Mouami, qui est chargé des programmes pour l'Afrique centrale à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez-nous au 081 890 63 94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Raphaël nous appelle de Kikwita. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité.
Bonjour.
On vous écoute, Raphaël.
J'ai une petite question ici. C'est-à-dire, nous savons que la forêt est constitué d'arbres. Alors, je voudrais savoir combien de mètres cubes de CO2 un arbre adulte peut absorber par jour. Donc, c'est ça ma question.
Merci, Raphaël, de nous avoir appelé de Kikwita Bounia. Moïse est en ligne. Bonjour, Moïse.
Bonjour, Azur Kapi. Bonjour, Aleviti.
On s'écoute, Moïse.
Enfin, j'aimerais par là réaliser ma satisfaction, excusez-moi pour préciser, pour cet thème très important, qui parle de dégradation des forêts, surtout en RDC. Effectivement, c'est un phénomène qui est vécu par les Congolais. Alors, j'aimerais, à travers cette émission, déplorer ces gestes théoriques. Donc, cette émission est très importante, mais de l'autre côté, les problèmes se posent au niveau de l'applicabilité des lois, mais aussi des mesures qui sont prises par rapport à la protection des forêts. Je prends l'exemple du code forestier,
oui,
qui régit les prélèvements, qui régit les exploitations des forêts au niveau du Congo. J'ai pris également l'exemple du Fonds forestier national. Tout ça, ce sont des fritures. Ce sont des mesures que les gouvernements ont mises en place afin de garantir la durabilité de nos forêts. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de déplorer, comme je disais tantôt, cet aspect de l'inapplicabilité de toutes ces mesures. Si l'invité me dit, malheureusement, lui, il travaille au compte de l'IICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais s'il travaillait au niveau du ministère de l'Environnement, je vais lui poser cette question. Aujourd'hui, de manière pratique, si opposé au Fonds forestier national, ce qu'il fait avec les différentes taxes, les différentes taxations au niveau des exploitations artisanales, même au niveau des agriculteurs, il y a des taxes qui sont perçues. Mais qu'est fait les Fonds forestiers nationaux avec ces fonds?
Voilà, merci beaucoup. Oui.
Ouais.
Oui.
Alors, au-delà de ça, oui, j'ai aussi une deuxième question.
Allez-y.
J'aimerais demander à l'évité, là, les projets qui sont en train de mettre en place, est-ce qu'il n'y a pas moyen, donc, ce qu'ils prévoient, afin d'arriver au niveau local? Il y a des associations locales qui sont là, qui sont mises en place. Nous constatons que vraiment, il y a ce genre d'initiatives qui sont toujours arrêtées au niveau de l'État, au niveau de Kinshasa, mais ils n'arrivent pas sur terrain. Alors que les grandes étendues de ces forêts sont au niveau des provinces, au niveau local. Il y a des initiatives ici. Il serait mieux pour eux de venir soutenir ces initiatives au niveau local que de contacter les gouvernements alors que ces fonds sont toujours arrêtés là-bas. Voilà et puis ma contribution, je ne sais pas si je suis clair.
Merci, Boïs, vous avez été bien clair. Merci d'avoir appelé de Bounia à Nitoré. Comme vous l'avez dit, par rapport à la question qui concerne le gouvernement, lui, il est de l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais peut-être il pourra faire un commentaire pour ce qui est de l'applicabilité de la loi. Il en avait d'ailleurs abordé au cours de cette émission par rapport à la question de Maître Guilla. En tout cas, merci d'avoir appelé de Bounia. Voilà. Il y a Raphaël qui a posé une question sur les CO2. Vous pouvez répondre combien de mètres cubes il a demandé un arbre séquestrer, c'est ça, par jour, c'est ça sa question, je pense bien. Oui.
Oui, monsieur, merci monsieur Raphaël pour votre question, mais ici je voudrais dire que cette question, ça nécessite une réponse beaucoup plus scientifique.
Exactement,
et ça,
oui,
demande aussi des analyses approfondies. De sorte que je ne peux pas vous donner la quantité ici. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la quantité d'absorption dépend, ça ne dépend pas seulement de l'arbre, mais ça dépend aussi de l'âge, ça dépend de l'espèce, parce que ça dépend de la superficie du feuillage. Tu sais, tous les arbres n'ont pas les mêmes caractéristiques du point de vue phénologique. Donc, tout ça dépend de l'espèce, ça dépend de son enracinement. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, ça nécessite une analyse approfondie. Je sais qu'il y a des méthodologies qui ont été adoptées pour le faire dans le cadre de l'initiative MRV. Donc, c'est l'initiative pour la mesure de quantité d'absorption de carbone. Donc ça, il y a des études qui sont en train d'être menées. Donc, à mon niveau, je ne peux pas vous donner une réponse exacte pour le moment. Et ce que je peux juste faire comme commentaire, c'est la quantité des pins de l'espèce et aussi de l'âge de l'arbre.
Voilà, Moïse, qui est lui revenu sur les lois qui existent, mais qui ne sont pas appliquées. Et puis, il a posé une question par rapport à votre organisation. Il pense que c'est bon de faire des ateliers, c'est bon de chercher à trouver des solutions par rapport à cette question des déforestations, mais pourquoi, vous, d'après lui, vous n'associez pas les communautés locales par rapport à tout cela?
Je pense que le travail, ça se fait à différents niveaux.
Oui.
Parce que nous, nous faisons, comme je vous ai dit, nous influons aussi les acteurs. Donc les acteurs, c'est d'abord, on commence par le niveau national. Mais aussi, on travaille aussi avec les acteurs qui sont proches des populations. Et à notre niveau, on travaille avec les ONG locales, et dans le cadre du développement de leur capacité, pour qu'ils puissent transmettre les connaissances qu'ils ont bénéficiées de notre encadrement au niveau local. Donc, concernant les initiatives, je pense qu'il y a quand même quelques initiatives qui sont en cours sur terrain,
oui,
et dont la plupart sont mises en œuvre par ces ONG locales. Et aussi, il y a des projets qui sont menés sur terrain par les partenaires. Je pense que c'est un processus. Vous voyez, nous avons parlé de 8 millions à restaurer. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans une année, dans 2 ans, dans 5 ans. C'est un processus, mais il faut aussi commencer par quelque part. Et c'est l'initiative que nous sommes en train de faire. Donc, c'est pourquoi pour nous, IUCN, quand ce que nous faisons, c'est aussi réveiller tous les acteurs,
oui,
que ce soit au niveau international, au niveau national et au niveau local. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai accepté de venir pour participer à cette émission. C'est pour que le public puisse savoir ce qui se passe par rapport à l'environnement, par rapport aux questions de dégradation et des terres et aussi de déboisement.
Alors,
concernant la question... sur l'application des lois. Je pense que cette question, c'est une question, comme je l'ai dit, c'est une question généralisée et au niveau de la sous-région. C'est pourquoi, par exemple, il y a des initiatives qui ont été lancées pour la promotion de l'application et de la loi. Je peux citer l'initiative FLECT, donc c'est l'initiative pour le renforcement de l'application de la loi dans les domaines forestiers. Donc, c'est cette initiative accompagne les pays, on sensibilise les pays à appliquer la loi, mais aussi à développer des initiatives. Par exemple, il y a des initiatives de suivi de l'exploitation du bois. Ces initiatives ont commencé. Bien sûr, les résultats peut-être sont encore très limités, mais il y a des initiatives qui sont en cours. Il y a également des rencontres de sensibilisation sur le besoin de l'application de la loi en faveur de la conservation des ressources forestières. Ces initiatives, ces rencontres sont organisées régulièrement. Bien sûr, il faut un suivi pour la mise en œuvre de recommandations. Je suis d'accord avec l'intervenant. Donc, il faut le suivi. C'est pourquoi on essaie d'accompagner les pays dans le cadre du suivi, dans le cadre de sensibilisation pour atteindre ces objectifs.
Voilà. On va finir avec cette question sur cet atelier de validation de la carte des opportunités de restauration de terres dégradées et des bois en RDC. Il y a également, on a parlé de cet engagement de plusieurs pays de la planète de la RDC sur un engagement international de la restauration de terres dégradées déboisées d'ici 2030. Les études ont été effectuées. On a parlé des 8 millions d'hectares de pertes donc il faudra réhabiliter. Alors, les fonds.
Bon, les fonds, oui, les fonds, mais il ne faut pas seulement penser aux fonds.
Oui.
Ce qui est important, c'est l'engagement.
L'engagement.
Et l'engagement à quel niveau? Et l'engagement doit être fait à différents niveaux. Parce que la restauration de 8 millions d'hectares, les résultats, qui en bénéficiera? C'est tout le monde, c'est l'humanité. Parce qu'avec 8 millions d'hectares, c'est une grande superficie pour la séquestration d'une grande quantité de carbone. Et le stockage aussi. Donc, c'est-à-dire que la mise en œuvre de cet engagement, à mon avis, ce n'est pas seulement une affaire de la RDC. Il faut que tous les concernés puissent apporter un appui à la RDC. Parce que ça, c'est un engagement noble. C'est un engagement pour le monde entier. C'est-à-dire que les partenaires financiers au niveau international doivent appuyer des initiatives au niveau national pour la restauration de ces espaces. Mais aussi, comme on a parlé, il faut un grand travail de sensibilisation au niveau local, parce que la dégradation, ça s'est fait aussi au niveau des champs, des populations. Donc, il faut la réintroduction des arbres, l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, certaines initiatives qui demandent des grands montants de fonds, mais il y a d'autres où on peut avoir des résultats sans toutefois avoir besoin de grands montants.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Eli Akizou-Mouami. Nous rappelons que vous êtes chargé des programmes pour l'Afrique centrale à l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et vous étiez notre invité pour parler d'éco-marial 8, les terres dégradées et déboisées. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ok, c'est moi qui vous remercie pour me donner cette opportunité de faire passer mon message. Merci.